Oui, bonjour à tous, rebonjour. Ouais, comme vous le savez, il y a 15 jours, j'étais dans la jungle de Calais avant le démantèlement. Et bon, ça, la jungle de Calais, c'est une des jungles, parce qu'il y en a plein partout en fait. Il y en a dans le nord de la France, il y en a quasiment dans tous les ports. Calais est devenu l'emblème médiatique, mais c'était parce que c'était le plus grand. Mais il y a Grande-Synthe, il y a Dunkerque, puis il y a tous les camps sauvages qu'on retrouve à droite, à gauche, dispersés dans les villages. Et d'autant plus maintenant, comme la jungle a été démantelée, on a perdu 2000 migrants, dont certains sont retournés sur Paris. Mais on éparpille le problème, mais on ne le résout pas. Déjà, je voulais donner le bonjour de Robert Després. Robert Després, c'est le pasteur de Saint-Omer qui m'a accueilli gentiment, je dirais les bras ouverts. Et c'est aussi celui, je crois que c'est le vice-président de CNEF Solidarité. CNEF, donc c'est l'association, c'est quoi ça ? National des Évangéliques de France. Le Conseil National des Évangéliques de France, qui représente toutes les églises évangéliques au niveau du gouvernement. Donc le CNEF Solidarité, Robert Després en fait partie et gère toute l'action sociale du nord de la France. Avant d'aller plus loin, j'aurais aimé passer le film qu'il m'a donné au début pour vous donner un peu qu'est-ce qui s'est passé au nord de la France. Ils n'ont pas cherché à rentrer là-dedans. Ça leur est tombé dessus. Et donc le film l'expliquera mieux que moi. Donc il y a un petit film. J'espère que personne n'a programmé un poulet pour ce midi. Je fais comme Christian Caron. Parce que bon, le petit film dure 27 minutes et après j'aurai des choses à rajouter par-dessus. Donc on risque de partir un peu plus tard. Noémie, tu peux lancer le film si tu veux. Vous avez vu un petit aperçu. Donc ça, déjà, ce film a vieilli puisque la jungle de Calais n'existe plus depuis la semaine dernière. Mais en fait, ce que je voulais partager avec vous, c'est ce que moi-même j'ai vécu. C'est vrai qu'il faut s'y voir des films comme ça. J'en avais vu des dizaines, même à la télé, des choses comme ça. Mais y aller, c'était autre chose. Tu peux commencer. Donc là, les photos que vous voyez derrière, à part les deux dernières, c'est des photos que j'ai faites moi-même. Je voulais juste lire un commentaire j'avais écrit à chaud le jour, mes commentaires que j'ai écrits à chaud le jour même, parce qu'après on oublie, après on édulcore. Premier jour, de bons moments passés avec les migrants soudanais, afghans, mais overdose de thé. Moi qui n'aime pas le thé, j'étais servi parce qu'à chaque cabane que j'allais visiter, j'avais le droit à du thé. Malgré les histoires secrètes et sûrement pénibles de leur odyssée, ils sont joyeux et touchants. Au programme demain matin, aller dans une grande surface de Saint-Omer pour récupérer les invendus en pain et en fruits et légumes. Puis distribution dans la jungle avec le camion frigorifique. C'est celui de Bethléem, celui que vous avez vu dans le film, que vous allez voir en photo. L'atmosphère est néanmoins tendue pour le démantèlement prévu le 24-10. Conseil, n'écoutez pas les médias, ils focalisent sur les incidents commis par deux petits groupes, alors que la majorité des migrants sont calmes et pacifiques. Il y a environ 7000 personnes qui campent dans la jungle. Le deuxième jour, sur Calais, que dire devant l'indicible ? Mes sentiments sont contradictoires. J'ai à la fois une terrible envie de pleurer sur ce que je vois, pleurer sur la misère, la haine, le racisme, l'exclusion, la méchanceté gratuite, l'égoïsme et le parti pris que nous avons, moi le premier, sur des êtres différents tant au niveau culture que religieux. Nous avons visité exclusivement des musulmans afghans. Et puis cette joie d'avoir eu des conversations humaines et profondes, joie d'aimer et de partager avec l'étranger, joie d'être aussi enrichi par lui, Joie, enfin, de vivre, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je ne me sens pas meilleur que quiconque. Lorsque j'ai vu toutes mes forteresses de raisonnement et tous mes blocages, je suis clairement sorti de ma zone de confort. Et j'ai vu l'état de mon cœur, où il en était réellement. Mais ils sont tombés un à un aujourd'hui. Et je remercie Dieu pour cela. Je me suis fait nettoyer, complètement nettoyer sur mes... Je venais... Dieu a montré l'état de mon cœur. Et ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à Dieu. Troisième journée à Calais. Cette fois-ci, nous nous sommes enfoncés jusqu'à la zone syrienne pour donner du pain. Nous nous sommes réjouis avec eux, car l'un des leurs avait réussi à passer clandestinement la nuit dernière en Angleterre, rejoindre sa femme et son enfant. Drôle de sentiment de se réjouir d'un acte illégal. Beaucoup tenteront leur chance cette nuit, car ils ne veulent pas être raflés la semaine prochaine par les autorités françaises dans des bus et être dispersés aux quatre coins du pays. Je n'approuve pas la manière dont le démantèlement se fera, c'est-à-dire mal. Nous sommes passés par les Champs-Élysées. C'est l'artère principale de la jungle où il y a plein de boutiques et de restaurants afghans. Au retour, nous nous sommes arrêtés. À l'école, il y a une école là-bas. Vous la verrez, c'est sûrement marqué school dessus. Pour donner 30 kilos de pain, ainsi qu'aux Soudanais, deux femmes croisant notre chemin ont eu la surprise aussi d'avoir du pain et quelques tomates. Avec très peu, nous faisons des heureuses. Ce soir, l'atmosphère est tendue car les CRS sont de plus en plus nombreux. J'ai aussi discuté avec eux lors du contrôle de nos papiers. En entrant dans le camp pour leur donner un petit mot d'encouragement, ils se demandaient pourquoi ils étaient aussi nombreux. Ils me disaient que dans la ville d'où ils venaient, la violence était bien pire qu'à Calais. Et le quatrième jour à Calais, cette fois-ci, c'était avec ma fille Liora et son mari Romain, où nous avons apporté des valises pliantes aux Soudanais, j'ai témoigné là-dessus la semaine dernière, et pris un thé dans leur cabane. Nous avons profité de cette nouvelle visite de la jungle pour visiter l'église orthodoxe. Nous avons fait de belles rencontres enrichissantes humainement. Voilà les Champs-Élysées, c'est ça, hein, les Champs-Élysées, si vous voulez voir. On mange très bien au niveau du petit Kaboul, c'est un restaurant afghan qui n'existe plus puisqu'il a brûlé cette semaine. Mais voilà. Et ce que je voulais partager avec vous, ce qui concerne l'Église, ce qui me concerne, moi, à titre perso, hein, si je prêche, je ne suis pas au-dessus de tout le monde, c'est pas moi, je ne suis pas super chrétien qui a été aidé les migrants, non. Je me suis aperçu dans quel état j'étais déjà, je vous l'ai dit. Mais j'ai eu un enseignement de la part de Dieu aussi. C'est fou que c'est quand on sort de sa zone de confort, Dieu nous parle. Et cet enseignement, je voulais le partager avec vous. C'est dans Deux Rois. Tu peux laisser défiler les photos, mais ça n'a plus rien à voir avec les photos, puisque maintenant on retourne dans la parole de Dieu quand même. Deux Rois. Au chapitre 4. C'est le miracle d'Élisée, l'huile de la veuve. Vous connaissez tous ce passage, on l'a lu des dizaines de fois, les vieux chrétiens. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel, or le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Notez la richesse de cette dame. Ta servante n'a rien du tout si ce n'est un petit vase d'huile, ou on pourrait dire un flacon d'huile. Et il lui dit, va demander en dehors des vaches chez tous tes voisins, des vases vides. N'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait des vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un autre vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla la rapporter à l'homme de Dieu et lui dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, et ce qui te restera. » Et ce qui restera, de ce qui restera. Je me suis retrouvé dans la situation de cette veuve. Comme je vous l'ai dit, Dieu a montré l'état de mon cœur. Je n'ai rien. Si ce n'est un vase d'huile, puisque j'ai le Saint-Esprit en moi. C'est pas énorme. Mais j'ai toujours, et peut-être certains sont dans mon cas, un petit vase d'huile encore en soi. Le miracle d'Élisée, c'est un, que cette femme avait un vase d'huile encore à sa possession, et deux, qu'elle avait des voisins bien sympathiques pour lui prêter des vases pour qu'elle puisse les remplir. Et j'ai vu ces églises là du nord de la France, vous avez vu le nombre d'associations qui travaillent ensemble. Et effectivement, quand on raisonne à titre privé, ou même au niveau d'une église locale, ils ont tous un vase d'huile, mais tellement petit qu'il ne pourrait suffire à tout le monde. Par contre, quand tout le monde se prête les vases vides, les voisins, les églises voisines, les associations voisines, et quand je dis les églises voisines, il y a l'église de Toulouse, c'est pas très voisin de Calais, ça, mais les églises de France se sont unies. À ce moment-là, le miracle a eu lieu. Des conversions. Bon, il y a beaucoup de conversions dans ces camps. Vous avez vu aussi qu'il y a beaucoup de persécutions dans ces camps, donc tous les migrants ne sont pas des gentils. Hein. Je ne vais pas faire de l'évangélisme béat dans le monde des bisounours. Sachez qu'il y a des migrants qui sont sûrement là aussi en tant que djihadistes. Mais ce n'est pas ça le souci. C'est que le souci, c'est qu'il y a des chrétiens. Il y a des gens, même musulmans, qui sont appelés à se convertir. Moi, j'ai eu beaucoup de contacts avec des musulmans, plus qu'avec des chrétiens d'ailleurs. Mais le fait qu'on vienne les aider, le fait qu'ils nous accueillent, franchement, ils savent qu'on est chrétien, puisque de toute façon c'est écrit Bethléem, hein, donc Bethléem c'est au pire un truc juif, au mieux un truc chrétien, quoi. Mais Bethléem, ils savent ce que c'est une ville, ils savent lire. Ils savent qu'on est chrétien. Mais ce qui les touche, c'est pas que le fait qu'on soit chrétien. Ce qui les touche, c'est le fait qu'on est venu les mains pleines, voire les mains vides. À la limite, on serait venu les mains vides, ce que me disait Rod, une des bénévoles de Bethléem. Elle, des fois, elle y va juste prendre un thé avec eux pour leur passer une après-midi avec eux. Et elle n'a rien, elle n'amène rien. Hein. Elle n'a rien à leur donner l'après-midi. Elle y va et eux, ils sont heureux que des chrétiens viennent chez eux. Ce qu'on peut appeler chez eux, partager un moment avec eux, et ça se finit souvent par la prière. Alors, sachez que si vous pensez que vous êtes un petit, qu'on est tout petit, c'est vrai que moi je le pense aussi, qu'on n'a pas de moyens, qu'on est pauvre, enfin pauvre. Dans le sens, on ne sait pas comment venir en aide. Sachez que c'est pas vraiment votre souci, c'est le souci de Dieu. Votre souci à vous, notre souci à moi, c'est de partager le peu d'huile que je peux avoir. On peut le lire dans Jean 6 aussi. Connaissez tous ce passage. La multiplication des pains. Ça me parle maintenant parce qu'il y avait 7000 personnes dans le camp de Calais. Et là, il y a 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. On sait qu'à Calais, il y avait 1300 enfants, il doit y avoir peut-être un millier de femmes. Ça correspond à peu près à la population que Jésus a nourrie. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait des miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux, voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Et il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun d'eux en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes, ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez ces morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, ils remplirent 12 paniers avec des morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Des gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Ils étaient 13, au moins, ils étaient sûrement plus que ça. Jésus et ses 12 disciples, mais il devait y avoir d'autres disciples qui suivaient. Pas un seul n'a pensé à prendre du pain. C'est pire qu'ici avec les agapes. Pas un seul des chrétiens, entre guillemets, puisqu'ils n'étaient pas encore chrétiens à l'époque, des chrétiens qui entouraient Jésus n'avaient prévu le repas du midi. Et là, Jésus voit 5000 personnes et il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. C'est ce qui est arrivé au pasteur de Calais. Il a vu arriver 5000 personnes dans sa ville. Et il y a Jésus qui lui a dit, donnez-leur de vous-même à manger. Bien sûr, tout seul, avec sa petite bouteille d'huile, il ne pouvait pas. C'est pour ça qu'ils se sont unis avec toutes les églises de la région. Mais Jésus ne fait rien sans rien. On aurait pu prier, les apôtres auraient pu prier, « Seigneur, fais un miracle, crée le pain, crée les poissons, ça n'aurait pas été impossible. » Jésus s'est retourné sur une seule personne, le héros principal de cette histoire, un jeune homme, un petit enfant. Sûrement que ces 5 pains et 2 poissons étaient son goûter que sa mère avait dû donner avant de partir. Tiens, puisque tu t'en vas voir Jésus, que tu habites un peu loin, je te donne ça pour un encas. C'est ton casse-croûte, c'est mon 4 heures. C'est ton repas du midi. Et voilà que Jésus demande à cet enfant, donne-moi tout. Donne-moi tout. Là aussi, il avait ces 5 pains et 2 poissons, c'était la petite bouteille d'huile de la veuve. Et qu'est-ce qu'il en a fait, Jésus, de ces 5 pains et 2 poissons? Il a nourri 5000 personnes. Et en plus, il y avait des restes, 12 paniers de restes. Ne soyez pas limités dans votre tête. Ne soyons pas limités dans notre tête. Moi-même, le premier, je ne me sens pas du tout au-dessus de quoi que ce soit. Je me suis pris une grosse claque à Calais. Une très grosse claque sur ce que j'étais réellement. Jésus ne nous demande pas de réfléchir sur si c'est possible ou pas possible, parce que si on commence à partir là-dessus, on ne fera jamais rien. Parce que c'est toujours impossible ce que Dieu nous demande. Par contre, il nous demande d'aller avec la force que l'on a, le peu que nous avons. Mais Seigneur, j'ai rien, quoi. 5 pains et 2 poissons, c'est risible pour 5000 personnes. Ben là, écoutez, Bethléem, il y a le camion, là, vous voyez passer de temps en temps, ou à un moment, vous voyez qu'on est en train de charger 2 palettes de pain. Plus de 120 kilos de pain. C'est pas un miracle, ça? C'est pas le même miracle que Jésus. C'est le directeur du Auchan de Saint-Omer qui nous donne ses invendus tous les jours. Mais il les donne, pourquoi? Parce qu'il a vu qu'il y avait une association chrétienne qui travaillait. Avec son camion frigorifique. Et je vais revenir sur la deuxième partie du message. Ce camion frigorifique n'a pas été créé pour les migrants. Il a été créé pour les Français de Saint-Omer, puisqu'ils font les Restos du Cœur un peu. Donc il y a beaucoup de gens là-bas qui sont économiquement pauvres, qui sont aidés depuis des dizaines d'années. Donc l'association Bethléem existe depuis une dizaine d'années. Et ils font 300 repas par jour. L'équivalent de 300 repas par jour en complément du Resto du Cœur. Donc ce camion n'a pas été fait pour les migrants. Et ce que me disait Robert Després, quand je lui ai parlé de ça, il me dit, mais les migrants, ils ont juste le surplus de Bethléem. Ils n'ont pas la priorité, ils ont juste, comme on a trop, on a de plus en plus et ça va se perdre, et ben on le donne aux migrants. En fait, les 12 paniers que Jésus a récupérés à la fin, c'est pour les migrants, c'est-à-dire c'est pas pour les gens qui du cru d'ici, c'est les migrants qui y ont droit. Ça multiplie, ça multiplie, ça multiplie. Et tous les jours, l'activité de Bethléem, c'est de s'occuper des SDF en France, de s'occuper des familles françaises qui n'ont pas toujours de quoi manger. Et j'en profite pour le dernier point qui est très important pour nous. C'est dans Matthieu 24, vous le connaissez tous. Et j'en conclurai pour ça. Jésus parle de la chute de Jérusalem et aussi de la fin des temps en parallèle. Au verset 5, au verset 4, il dit « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ ». Et ils suivront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. » Si on est en plein dedans. Si les migrants sont à Calais, c'est parce qu'il y a des guerres et des bruits de guerre. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. C'est ce qui se passe aussi au Darfour. Les migrants du Darfour, ce n'est pas spécialement une guerre, c'est aussi une famine. Tremblements de terre, il y en a encore eu un en Italie cette nuit. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Beaucoup de chrétiens disent que c'est la fin des douleurs. Non, c'est le commencement. Même bonne nouvelle, je vous annonce l'évangile. C'est le commencement des douleurs. Alors la suite, c'est plus drôle. On vous livrera au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs par toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi beaucoup, plusieurs succomberont et se trahiront. Ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du monde se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Dans ce texte, il y a un seul avertissement que je prends pour moi et qui est sérieux. C'est parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Il est dit dans notre passage, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que découlent les sources de la vie. L'amour d'un plus grand nombre. Croyez-moi, j'ai eu un deuxième choc. Quand j'ai partagé certains de mes sentiments sur Facebook, j'ai des chrétiens qui m'ont écrit, je dis bien des chrétiens, qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? Ce sont des violeurs. Effectivement, il y a des violeurs parmi eux. Je nie pas qu'il y a eu des viols dans la jungle de Calais. Il y a peut-être des pédophiles aussi. Il y a 7000 personnes, mais il n'y en a pas plus que dans les autres endroits de France. Et j'ai vu aussi, il y avait cette histoire de viol, une journaliste, une interprète qui s'est fait violer au moment où j'y étais, la nuit, mais enfin je ne sais pas ce qu'elle faisait à 3 heures du matin, en plein milieu du camp de Calais, toute seule, avec les Afghans. Il y en a qui cherchent aussi, c'est pas une excuse, hein, mais il y a un manque de prudence. Et j'ai vu tous les commentaires qu'il y avait sur Facebook. Il faudrait passer le camp en napalm. Il faudrait un deuxième génocide. Je ne parle pas de tout ce qui... Ce n'est pas des chrétiens qui disaient ça, heureusement. Mais chez les chrétiens, on m'a dit, mais tu t'occupes des migrants, mais les SDF, alors, vous en faites quoi? Eux, ils ont des appartements, ils gagnent 1500 euros par mois donnés par l'État, et les SDF, on les laisse dehors crever dans le froid. D'abord, ce n'est pas 1500 euros, je résume. Un migrant qui a fait une demande de régularisation, c'est 11 euros par jour, par adulte. Pas par enfant, hein, par adulte. C'est-à-dire une famille de 3 enfants, ils sont 5, ils touchent 22 euros par jour. Faites le calcul. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, est-ce qu'on peut opposer une misère par rapport à une autre misère? Et c'est là que Robert Després m'a dit, mais... Les SDF, on s'en occupe aussi. Sauf qu'il y a beaucoup de SDF qui ne veulent pas qu'on s'occupe d'eux, qui veulent rester dans la rue. Mais sinon, s'ils se montrent aux associations, ils sont accueillis tout comme les autres. Méfions-nous de ce qui est véhiculé, surtout dans les réseaux sociaux. Parce que tout de suite, quand c'est des migrants, forcément, c'est des méchants. Moi, les migrants, je ne les appelle pas comme ça. Moi, ils s'appellent Youssef, ils s'appellent Hussein, ils s'appellent Adam, ils s'appellent Nicolas. Bon, je n'ai pas 7000 en tête, mais c'est des êtres humains qui ont fui pour la plupart leur pays. Effectivement, il y a peut-être des faux dedans. Je nie pas le fait qu'il doit y avoir des profiteurs dedans aussi. Mais est-ce que c'est à moi de juger? Est-ce que c'est à moi de trier ceux qui sont vrais de ceux qui sont faux? Nous avons Jésus qui nous a dit, hein, vous l'avez dans Matthieu 25, hein, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, c'est leur cas, vous m'avez accueilli. Et en conclusion, dans Deutéronome 10-19, il est dit que tu aimeras l'étranger au milieu de toi. J'ai été surpris de ce passage aussi, parce que dans d'autres passages, il dit tu accueilleras l'étranger, tu ne l'opprimeras point. Et là, le verbe, c'est tu aimeras. Alors j'ai été tout de suite voir dans mon dico d'hébreu pour savoir si c'était vraiment le verbe aimer. Avav, le verbe avav. Qui est aimé comme on peut aimer sa famille, comme on peut aimer sa femme, c'est ce verbe-là. Tu aimeras l'étranger, tu aimeras comme tu aimes ton Dieu, comme tu aimeras l'Éternel ton Dieu, c'est le même verbe. Il y va fort là quand même dans le Deutéronome. Tu aimeras l'étranger au milieu de toi. Voilà, j'ai été un peu plus long que prévu. On va arrêter là parce que vous avez le poulet qui va être cuit. Mais bon, voilà, c'est ce que je voulais partager à l'Église. Courage, prenez courage. Ne vous découragez pas avec les moyens que vous avez, les moyens que nous avons, le niveau que nous avons aussi au niveau de notre cœur. Gardez votre cœur. Parce que je vois comment la haine, la xénophobie, le racisme, à la veille des élections, peut entraîner notre pays dans une perte, loin de Dieu, loin des évangiles. Je ne donne pas de consigne de vote, mais on ne peut pas se dire chrétien et aimer son prochain comme soi-même, aimer l'étranger. Et d'un autre côté, adhérer à des thèses qui voudraient les rejeter à la mer ou les... Ils sont là. C'est pas plus de leur faute que de la nôtre. Ils ont fui la guerre quand vous voyez ce qui se passe à Alep. Quand vous voyez que c'est nos avions de chasse aussi qui bombardent certaines positions. Et bon, quand on bombarde, comme il n'existe pas de guerre propre, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire, il y a forcément des civils qui sont touchés. Que ferait Jésus à ma place ? J'ai peu d'huile dans mon vase, très peu d'huile dans mon vase, mais j'ai de l'huile quand même. Et cette huile-là, je veux qu'elle serve. Comme le bon samaritain, il a soigné les plaies de celui qui était blessé avec de l'huile et du vin. L'esprit et le sang de Jésus. Voilà, c'était ce que je voulais partager. On peut prier. Pouvez-vous lever pour recevoir bénédiction ?